Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes lundi 9 novembre 2020. Vous suivez la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. Deux personnes ont trouvé la mort dans une attaque armée. Elles ont été tuées par deux hommes à moto sur la colline Rurengera de la commune Mutawa en province d'Itega. Différentes voix s'élèvent pour mettre en garde toute personne qui serait tentée d'acheter les biens des présumés auteurs de la tentative de putsch de 2015. L'opposition et les experts de droit indiquent que ces biens qui seront vendus aux enchères dès ce mercredi finiront par revenir à leurs propriétaires initiaux. Et puis, l'aéroport de Bujumbura est opérationnel depuis ce lundi. Un premier avion atterrit à 8 heures du matin. Jospin Douimana est aux manettes. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une attaque armée a fait un mort et deux blessés hier soir. Cela s'est produit sur la colline Rurengera de la commune Mutao en province Gitega. Selon des témoins, les assaillants étaient à bord d'une moto, mais ils n'ont pas été identifiés. Le point avec Francine Kanyangé.
C'était aux environs de 19h quand des hommes cagoulés ont fait irruption dans un débit de boisson et tiré sur trois des personnes qui s'y trouvaient, tuant l'une de ces personnes, une femme, et blessant deux autres selon des témoins. D'autres sources affirment que les assaillants sont venus à moto. Un des habitants de la zone Glissavi raconte.
Quand vous parlez, à côté, à un centre où il y a des cabarets et une église, des églises évangéliques des hommes. Il s'agissait d'un habitant de la localité qui était au bar. Et un groupe armé, venu sur une moto, attaqué, un groupe de trois personnes, qui était en train de causer, prendre de quoi boire.
Des sources de la zone Glissavi affirment que quatre membres de la belle famille de la femme tuée lors de cette attaque ont été interpellés ce lundi pour raison d'enquête. Le gouverneur de Gitega, accompagné de certaines autorités policières et militaires de cette province, dans une réunion tenue ce lundi dans la zone Glissavi, a mis en garde les fauteurs de troubles et appelé la population à rester sereine.
Merci Francine Kanyangé. La sécurité, on y reste avec ces quelques brèves. Le corps sans vie d'une femme du nom de Jacqueline Minani, âgée de 45 ans, a été découvert dimanche matin dans un boisement d'eucalyptus sur la colline Kizi, zone Kiremba, en commune Gasogwe, province Muyinga, selon les informations recueillies sur place par la radio Nzamba. La victime a été tuée la nuit de samedi à dimanche. Les criminels lui ont asséné des coups de machette au niveau de la tête avant de la décapiter, confirme-t-on. Le mobile de ce crime serait lié à des croyances obscurantistes, indiquent les mêmes sources. Deux suspects ont été interpellés par la police pour des raisons d'enquête. Autre lieu, autre découverte macabre à Makamba. Le corps d'un homme d'Isaïe Manilakiza qui a été repêché dans la rivière Mouchara sur la colline Nyamugali, zone Moussegni de la commune Mabanda. Cette découverte est survenue dans la journée ce dimanche. Selon une source locale, Isaïe Manilakiza, 18 ans, avait disparu dans l'après-midi de ce samedi 7 novembre. Une source proche de la police qui dit que des conflits fonciers seraient à l'origine du meurtre. Trois personnes suspectées ont été appréhendées. Et puis, une pluie torrentielle s'est abattue ce samedi sur les communes de Manda et Gihanga, en province de Bubanza, causant de nombreux dégâts. Deux enfants ont été blessés, tandis que 270 maisons et des cultures ont été emportées. La population de ces communes est dans le désarroi. Elle demande à l'État de leur venir en aide. Ces nouvelles sont confirmées par l'administrateur de la commune Manda, Nadine Nivitanga. Elle indique que cette catastrophe arrive au moment où la population se trouve dans des difficultés liées à la saison culturelle. L'administrateur demande aux bienfaiteurs d'aider cette population démunie en leur donnant notamment des semences et des tôles.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Je vous le disais dans les titres du mercredi 11 au samedi 14 novembre 2020. Et donc dans deux jours, le ministère de la Justice procède à la vente aux enchères des biens des présumés auteurs du putsch manqué de 2015. La coalition de l'opposition politique Sefor Arusha fait un clin d'œil à tous ceux qui sauraient tenter d'acheter ces biens. Tôt ou tard, quand il y aura une justice indépendante, ces biens retourneront à leurs vrais propriétaires, prévient la coalition. Son président Frédéric Bamvoyinouvila explique par ailleurs que c'est bien que le gouvernement veut vendre appartiennent aux familles et non aux individus. On l'écoute.
Ça ne devrait pas être vendu. Les biens devraient être entretenus par l'État et non pas les vendre à quelqu'un d'autre. Parce que ces biens-là appartiennent non pas aux personnes qui sont accusées. Ces biens appartiennent à la famille et non pas au chef de famille. C'est ça la différence qu'ils doivent absolument faire. Aucun pouvoir ne peut condamner des familles entières à l'errance, et tout simplement parce qu'il y a un problème entre le pouvoir et le chef de ménage. Deuxième élément, c'est que les biens qui vont être achetés peuvent l'être aujourd'hui, mais l'expérience a montré par le passé que les biens qui ont été pillés en 1972, les biens qui ont été injustement occupés par des personnes lors de justement des problèmes de 1972, les biens qui ont été achetés par d'autres, de quelqu'un qui les a pris par force, eh bien, qu'est-ce que l'expérience montre? L'expérience montre que ces personnes-là finissent par perdre. J'invite donc ces personnes qui viendraient acheter à travers cette vente aux enchères des biens appartenant aux personnes jugées par le pouvoir en place, que ce pouvoir qui fait un jugement aujourd'hui, ce jugement peut être revu. C'est comme ça que les choses se passent. C'est aussitôt que la personne est libre de venir au Burundi, aussitôt qu'il y a de la paix au Burundi, ces personnes peuvent absolument interjeter la paix et avoir gain de cause. Alors maintenant, qu'est-ce qui va perdre au finish? C'est cette personne-là qui aura acheté ces biens-là de façon irrégulière et il finira par perdre.
Voilà, c'était donc le clin d'œil de Frédéric Bamvoyinouvila, président de la coalition de l'opposition Sefor Arusha. Maître Vital Nshimirimana interpelle également les personnes qui auraient l'intention d'acheter les biens des présumés putschistes. Cet avocat indique que les personnes qui achèteront ces biens auront agi contre la loi, car selon lui, ces biens ont été volés par le pouvoir en place. Pour lui, les acheteurs de ces biens et le pouvoir de Ndayishimiye seront poursuivis tôt ou tard. On l'écoute.
L'administration judiciaire burundaise accuse plusieurs dysfonctionnements en ce qui concerne la gestion des affaires sensibles, particulièrement des affaires dites politiques, et nous faisons référence à la fameuse affaire du coup d'État de mai 2015 qui a commencé en violation de la loi, de la procédure et particulièrement ce qui concerne les garanties des droits aussi équitables et qui continue sous la même lancée en ce qui concerne les saisies immobilières et mobilières qui devient tout simplement une forme d'anéantissement économique des concernés. Nous constatons que ces saisies ont été faites en violation de la loi, dès lors qu'elle a impliqué des éléments de la police et du service de renseignement, alors que ces éléments n'ont rien à voir avec l'exécution d'une affaire pénale ou civile, et que, en principe, c'est l'huissier de justice sous la supervision du tribunal ou de la cour qui doit pourvoir à l'exécution d'une telle mission. Et nous saisissons cette opportunité pour interpeller la population burundaise, les potentiels acquéreurs des biens saisis, et qu'il faut faire extrêmement attention parce que les personnes qui vont s'aventurer à acheter de tels biens seront considérées comme complices ou comme des receleurs des objets qui ont été obtenus par la ruse, la fraude et en violation de la loi.
On parle toujours justice avec l'emprisonnement de Fabien Bantiganyino, qui est l'image par excellence de la répression de la démocratie au Burundi. C'est l'avis de Maître Janvier Bigirimana, coordonnateur du programme dédié au changement positif dénommé « Tournons la page ». Pour lui, c'est également un signe qui ne trompe pas que la justice burundaise est un outil de répression du pouvoir dictatorial en place au Burundi. Pour lui, toujours, la libération de l'ancien député pourrait donner une image autre que celle déjà connue de la justice burundaise. Je vous propose de l'écouter. Voici Maître Janvier Bigirimana.
Le maintien en prison du député Fabien Bantiganyino, c'est un recul grave de la démocratie au Burundi, parce que il était représentant du peuple, tous ceux qu'il avait exprimé lorsqu'il était député à l'Assemblée nationale du Burundi. Il portait la voix du peuple, donc il avait le droit de s'exprimer librement. Et cette expression libre n'est pas une exclusivité des représentants du peuple, parce que même le peuple lui-même, tout citoyen, a le droit de pouvoir s'exprimer chaque fois qu'il ne viole pas les lois de la République. Cette détention de cet ex-député est également un signe éloquent de l'agonie de la justice burundaise, une justice qui est devenue un instrument de répression dans les mains de l'exécutif, une justice qui ne parvient pas à secourir aux milliers de victimes qui sont persécutées chaque jour par le régime en place. En vertu de l'article 60 de la Constitution de la République du Burundi, il est prévu que le pouvoir judiciaire soit le gardien des droits et des libertés de la population. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que, au lieu de pouvoir remplir cette obligation constitutionnelle, le pouvoir judiciaire est devenu plutôt un instrument de répression que l'exécutif burundais utilise à sa guise. Le maintien de cette détention illégale et arbitraire est également un message du parti CNDD-FDD et du régime en place, comme quoi le régime a choisi de continuer à régner avec la terreur. Cette terreur qui s'est vue au Burundi est une voie sérieuse qui a été choisie délibérément par le régime du CNDD-FDD pour faire peur à tout le monde. Nous pensons que c'est une très mauvaise voie parce que ça incarne le recul de tous les droits et libertés et ça a des conséquences très néfastes sur la vie du pays. Nous demandons donc que le régime en place, y compris la justice, puisse se ressaisir pour que la libération de cet ex-député députés puissent intervenir sans autre condition parce que c'est une honte pour le peuple burundais et pour ce régime. Lorsque les représentants d'un peuple sont menacés, c'est tout un peuple qui est menacé.
Et puis, une pensée pour nos quatre consoeurs et confrères du journal Iwachu qui totalise aujourd'hui 385 jours d'incarcération. Ils sont accusés de tentatives impossibles de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs burundais chacun.
Message aux élèves sur la prévention de la Covid-19. La Covid-19 n'est pas sélective. Chers élèves, cette pandémie vous concerne aussi. Appliquez partout où vous êtes les mesures barrières de prévention. Lavez-vous les mains avec du savon. Évitez les poignées de main. Il est interdit d'échanger vos masques avec des amis. Et si vous présentez un des symptômes de la maladie, avisez les parents ou les enseignants.
Ceci est un message de la radio Inzamba.
Agathe Kaka.
La suite de ce journal avec les réfugiés burundais du camp de Mulongwe, c'est en République démocratique du Congo, qui viennent de passer 4 mois sans recevoir leur ration alimentaire. Ils demandent au Programme alimentaire mondial de les régulariser. Selon un des réfugiés qui s'est entretenu avec la radio Inzamba, les retards dans la distribution de cette ration entraînent de nombreuses conséquences à l'intérieur du camp et dans le voisinage. On écoute ce témoignage.
En ce qui concerne la distribution de la ration ici au camp de Mulongwe, c'est une activité qui se fait tardivement et on remarque toujours des irrégularités. Par exemple, aujourd'hui, on vient de nous donner la ration de 2 mois, c'est-à-dire le mois de juillet et d'août, alors que nous sommes au mois de novembre. Ce qui veut dire que les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre, pour tous 4 mois, vont rester sans être régularisés au cours de cette année. Le risque est qu'ils peuvent aller en vacances sans qu'on soit régularisé. Et au début de l'année, ils vont commencer avec de nouvelles listes. Nous demandons d'être régularisés avant la fin de l'année. Parce que le PAM le sait très bien qu'il y a de la famine au sein de notre camp. Et les conséquences sont multiples, notamment le banditisme. Et les réfugiés adoptent des comportements inhabituels. Nous demandons au Programme alimentaire mondial de nous donner chaque fois cette ration régulièrement pour éviter cette misère.
Je vous le disais dans les titres, l'aéroport international de Bujumbura est ouvert depuis ce lundi. Le premier avion de la compagnie Kenya Airways a atterri à 8h du matin. Le directeur de l'aviation civile, Emmanuel Habimana, indique que toute personne est autorisée à venir à Bujumbura, mais à une condition, que les règles pour la prévention de la COVID-19 soient respectées. Emmanuel Habimana.
Ce matin du 9 novembre 2020, premier avion de Kenya Airways vient d'atterrir et comme vous le voyez, les passagers sont très bien distancés et sont en train de suivre les formalités. Après ces formalités ici, suivront les formalités de prélèvement et leur mise en hôtel. Nous allons suivre leur discipline même dans les hôtels, c'est-à-dire qu'ils vont regagner leur famille ou leur poste d'attache selon le cas. Après avoir eu le certificat confirmant qu'ils n'ont pas de COVID-19. Même dans les hôtels, nous allons faire un suivi rigoureux pour nous rassurer qu'ils n'ont de contact avec personne pour atténuer le plus sensiblement possible les risques de contamination du COVID-19 au Burundi.
On parle santé. À ce jour, plus de 85 000 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans toute la communauté est-africaine, dont plus de 13 000 décès. Le Burundi, quant à lui, compte 582 cas de cette pandémie depuis le mois de mars de cette année. Du moins, officiellement, 25 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés la semaine qui vient de s'écouler. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Ndayishimiye.
Selon le bilan dressé par le porte-parole du ministère de la Santé publique ce samedi, 25 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés entre le 1er et le 7 novembre 2020. Sur les 25 nouveaux cas, 19 ont été importés. Ils portent à 582 le nombre d'individus jusqu'ici atteints par la COVID-19 avec un cas de décès. Notre pays voisin, le Rwanda, connaît 5222 cas dont 36 décès selon le ministère de la Santé publique. L'Ouganda dénombre jusqu'à présent 14 066 cas de COVID-19 et 131 décès. Le Kenya, quant à lui, compte 62 488 cas, dont 1111 décès. Le nombre de cas positifs dépasse désormais régulièrement la barre d'un millier par jour, alors que le pic enregistré en juillet dernier lors de la première vague n'avait pas dépassé les 960 cas selon le ministère de la Santé publique de ce pays. 2926 cas de COVID-19 pour le Soudan du Sud. 59 personnes ont déjà trouvé la mort. La Tanzanie, quant à elle, enregistre 509 cas de COVID-19, ce qui nous amène à un total de 85 726 cas dans toute la communauté est-africaine, dont 1337 décès.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à Jospin Duimana pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la radio, de la rédaction de la radio Inzamba Gate Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite une excellente semaine sur nos ondes. Portez-vous bien.